Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Franceinter.fr.
Bonsoir. Contrôle renforcé sur les routes des vacances, ce n'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, ce sont les radars et les éthylotests obligatoires dans toutes les voitures depuis hier. Tout cela, c'est pour notre bien, nous expliquent les pouvoirs publics, et surtout pour faire diminuer le nombre d'accidents sur les routes. Alors, présenté comme cela, tout le monde ne peut qu'adhérer. Sauf que des voix s'élèvent, y compris dans les associations de défense des victimes de la route, pour dire que certaines de ces mesures ne servent à rien ou qu'elles tiennent tout au plus du gadget. Alors qu'en est-il exactement? Le scepticisme des associations d'usagers et de victimes de la route est-il justifié? Et pour tout dire, n'en fait-on pas trop au nom de la sécurité routière? C'est ce que nous allons voir ce soir au téléphone sonne avec nos invités. Pascal Pennet, qui est rédacteur en chef adjoint du magazine Auto Plus, Jean-Yves Salin, qui est délégué général de la prévention routière, et Éric Decaumont, avocat au barreau de Paris, spécialisé dans les droits de l'automobiliste et président de l'Association des avocats de l'automobile.
01 45 24 7000.
À noter également que nous avions invité à cette émission Frédéric Pechenard, le délégué interministériel à la sécurité routière, qui n'a visiblement pas souhaité participer au téléphone sonne malgré nos nombreuses invitations et sollicitations restées ces derniers jours sans réponse. Alors tout de suite, direction le 01 45 24 7000, le standard du téléphone sonne. Nous retrouvons à Chartres Christian. Christian, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue au téléphone sonne, nous vous écoutons.
Merci de m'avoir sélectionné. Je souhaite de bonnes vacances sur les routes à tous vos auditeurs. Oui, voilà. Donc, le problème de l'accidentologie, on sait très bien que c'est la vitesse et l'alcool qui sont les deux facteurs, les deux premiers facteurs d'accidentologie. C'est toujours dommage d'entendre parler des radars au niveau négatif, hein, c'est-à-dire que pas fric, voilà. Et par contre, on ne voit pas le bénéfice de vie sauvée. Hein. 8000 tués en 2000, on est à peu près à 4000 actuellement. Donc ma question était aussi de peut-être à votre avocat de me répondre sur cette question. Lorsque un automobiliste est flashé à 200 km/h sur l'autoroute, il est un peu dommage qu'il ressorte des fois grâce à un vice de forme blanchi et avec tous ses points. Donc ça donne peut-être un mauvais signal au conducteur et il risque encore de continuer à rouler très vite. Voilà, merci.
Alors dans la question de Christian, en fait, il y a deux questions. Oui. Il y a d'abord, est-ce que les radars servent à quelque chose? Est-ce qu'ils font baisser le nombre de tués sur la route? Oui. Et deux, est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même là, des très très grands excès de vitesse qui méritent plus que certaines condamnations?
Alors j'ai entendu dire dans la bouche de notre ami auditeur que quand quelqu'un se faisait flasher 2 ou 3 km/h au-dessus, pour moi, c'est pas un très grand excès de vitesse, c'est même un tout petit excès de vitesse, et c'est intéressant d'ailleurs cet exemple parce que on sait qu'avec les appareils automatiques, c'est-à-dire les radars qui ont été positionnés depuis 2003 et qui représentent à l'heure actuelle à peu près, je pense, 80-90% des verbalisations pour excès de vitesse, c'est à peu près 9 millions sur 10 ou 11 millions, c'est énorme, on sait que il y a à peu près 80% des verbalisations qui concernent des tout petits excès de vitesse. La toute première catégorie,
c'est combien le petit excès de vitesse?
Le petit excès de vitesse, légalement, ça va de 1 à 19. En pratique, la majorité de ceux-là, c'est encore en dessous de 10. À tel point d'ailleurs qu'il y a eu un certain nombre de projets d'un certain nombre de députés et de sénateurs pour les dépénaliser, en tout cas les sanctionner moins sévèrement.
93%.
Hein, 93%, Pascal Pennec, en dessous de la réalité. Et justement, je voulais renvoyer, si j'ose dire, en quelque sorte, la balle à Auto Plus, parce que je voulais rappeler une chose très importante. C'est que les contrôles de vitesse qui sont effectués sont parfois, même assez fréquemment, effectués avec une erreur structurelle dans le positionnement de l'appareil qu'avait très judicieusement dénoncé le magazine Auto Plus il y a plusieurs années de cela, se basant sur un rapport de la police nationale, bien entendu, qui disait qu'il y avait des erreurs de mise en place tout simplement des appareils qui allaient jusqu'à 13 km/h. Ça veut dire que moi, je n'hésite pas à affirmer que quand quelqu'un se fait verbaliser pour 2 ou 3 km/h de dépassement sur autoroute, une fois déduit la marge de 5% qui n'est pas une marge de tolérance, qui n'est pas un cadeau, mais une marge d'erreur structurelle de fonctionnement de l'appareil, qui fait que vous ne pouvez pas être sûr de verbaliser quelqu'un injustement si vous le prenez exactement au pied de la lettre et de sa vitesse, et qu'il faut impérativement, compte tenu de l'erreur de fonctionnement de l'appareil, lui enlever ses 5%. Eh bien, même après cela, L'étude qui avait été faite par la police nationale et qui avait repris AutoPlus disait clairement que, en fait, bon, 13 km heure jusqu'à 13 km heure d'erreur, ça veut dire que quoi? Facilement la moitié des 93% de personnes qui se font verbaliser sont peut-être innocentes, sont potentiellement innocentes. Donc, personnellement, première réponse à notre auditeur, je ne pense pas que ça soit très grave que ces gens-là, même s'ils ont recours aux services efficaces, je le remercie vivement, de bons avocats qui permettent d'empêcher qu'ils soient sanctionnés, soient des dangers publics ou des chauffards. J'ajoute, et je suis heureux qu'on ait pris l'exemple de l'autoroute, et je tiens beaucoup à rappeler ça, que depuis 1973, il y a une différence fondamentale entre un pays voisin à l'Est qui s'appelle l'Allemagne et nous. C'est pas uniquement en matière de football qui vont plus loin dans les championnats, c'est également en matière de sécurité routière. Car depuis 40 ans, nous avons instauré une limitation de vitesse à peu près 40 ans sur les autoroutes et l'Allemagne s'en est dispensée. Croyez-vous que si la vitesse était la mère de tous les maux et qu'il suffisait de rouler vite sur autoroute pour qu'il y ait une hécatombe, il resterait encore beaucoup d'Allemands vivants et dans ce cas-là, ça serait un désert, ça serait un cimetière l'Allemagne. L'Allemagne se porte extrêmement bien, il n'y a pas plus de morts que nous et pour autant, ils n'ont pas de limitation de vitesse, ce qui me laisse à penser que la vitesse n'est pas la mère de tous les maux et je conclue là-dessus puisque tout à l'heure notre auditeur disait la vitesse et l'alcool. Alors d'abord, j'aimerais bien qu'on dise l'alcool et la vitesse car depuis 2006, l'alcool est de très loin la première cause, c'est l'inverse et la vitesse sur autoroute est un facteur dérisoire d'accidentologie, la troisième cause après l'endormissement et l'éclatement des pneus sous-gonflés. Et si on fait le total, selon les statistiques de la gendarmerie, sur 4000 morts en France, tout réseau confondu, dû à la circulation routière et à l'alcoolémie, la vitesse, tout ce que vous voulez, il y en a à tout casser, 20, vous avez bien entendu, 20 en France, sur tous les réseaux d'autoroutes confondus, attribués par la gendarmerie nationale et les sociétés d'autoroutes à la vitesse, ce qui veut dire en clair qu'on n'a pas un mort par an et par autoroute dû à la vitesse en France, nonobstant le fait que là, on rentre dans la bonne période. Pendant tout l'été, nous sommes une zone de transit du nord vers le sud, de l'ouest vers l'ouest, et que nous avons une circulation supplémentaire qu'on ne retrouve pas au Portugal, bien sûr, ou en Lituanie.
On va demander l'avis de Jean-Yves Salin, le délégué général de la prévention routière, oui, et ensuite Pascal Pénec d'AutoPlus.
Une précision, quand on dit 20 tués sur l'autoroute, heureusement sur autoroute, il y a peu de tués, il y a 200 tués, donc ça représente quand même 10% des accidents mortels. Et par ailleurs, ce que disait votre auditeur, surtout, il insistait, il disait, on oublie de parler des vies sauvées. Et il faut rappeler quand même qu'en 10 ans, on a réussi à réduire de moitié le nombre de tués en France, qu'on n'avait pas réussi à faire en 30 ans. Et sur la vitesse, il y a 10 ans, vous aviez 4 automobilistes sur 10 qui dépassaient de 10 km heure les limitations de vitesse, un peu tout le monde finalement. Aujourd'hui, c'est tombé à 10%. Donc on voit bien que c'est la réduction de la vitesse chez tous les conducteurs, y compris les petits excès de vitesse, qui ont permis de réduire le nombre de tués en France.
Mais est-ce qu'on peut dire que les radars sauvent des vies?
Bien sûr.
Forcément,
Pascal Pénec.
Forcément, mais il ne faut pas non plus dire que c'est uniquement grâce à ces boîtes magiques que la situation s'est résolue. On oublie un petit peu trop souvent que déjà que les infrastructures routières se sont beaucoup améliorées en l'espace de 10 ans. Et surtout, les voitures, elles protègent tellement plus qu'avant. Elles sont toutes équipées d'airbags maintenant. Elles sont toutes équipées de dispositifs qui permettent de freiner plus court, l'ABS, etc. L'ESP qui évite de se foutre en l'air dans un virage. Tout ça contribue énormément. Alors, dans quelle proportion, ça, personne n'est capable de le dire, mais c'est sans doute peut-être moitié-moitié, et surtout, les gens aussi ont pris conscience, il y a 10 ans encore, beaucoup de gens toléraient qu'il puisse y avoir un pourcentage de morts sur les routes. À partir du moment où il a été décidé, c'était à l'époque la loi Guesso, hein, qui a dit, ben non, tout d'un coup, à la suite peut-être de la campagne de Depardon, qui a, pour la première fois, on a vu du sang dans les campagnes télévisées, et ben tout d'un coup, c'est devenu insupportable, mais c'est grâce à ça, les Français ont mûri, et tout d'un coup, ils se sont dit, c'est plus possible.
Jean-Yves Salin.
Non, tout cela est vrai, les véhicules notamment se sont améliorés, mais rappelons que le renouvellement du parc en France, c'est 15 ans. Donc s'il y a eu tout d'un coup une baisse très importante du nombre de tués dans les années 2003, 2004, 2005, c'est bien parce qu'il y a eu cette prise de conscience et aussi ces appareils qui ont été installés qui nous permettent, qui nous incitent à respecter les limitations de vitesse.
Éric de Caumont, rapidement, et après on revient au standard.
Je n'estime pas la baisse depuis 2003, mais je tiens quand même à ce qu'on la mette en perspective par rapport à deux choses. Premièrement, à d'autres pays européens qui connaissent les mêmes baisses que nous et qui n'ont pas pour autant truffé leur territoire de radars automatiques, ce qui est très important puisque ça prouve bien que c'est pas que ça qui a pu entraîner les conséquences que l'on sait. Et surtout, j'incite tous nos auditeurs à aller se renseigner, par exemple, sur le site de la sécurité routière et constater quelles étaient la baisse, la descente, les années précédant l'arrivée des radars automatiques. Elle était bien meilleure en 2002 et au début 2003 où il n'y avait pas encore un seul radar automatique qu'elle ne l'a été par la suite. La baisse a baissé, si j'ose dire, par la suite. Donc c'était mieux avant les radars automatiques, à partir, comme le disait très bien Pascal Pennec tout à l'heure, d'une prise de conscience qui a commencé avec Guesso et qui a connu son apogée avec la déclaration du président Chirac en 2002 quand il a été élu pour son deuxième, enfin son quinquennat, et qu'il a dit les trois priorités de mon septennat, de mon quinquennat, ça sera, je vous passe les autres, et notamment la sécurité routière.
Et où il a sifflé les radars automatiques.
Il a sifflé la fin de l'arrêt clé, il a dit qu'on allait prendre conscience, le premier radar automatique a pointé son nez plus d'un an et demi après, et entre-temps on avait déjà beaucoup plus baissé que par la suite.
On en avait beaucoup parlé.
Voilà. Allez, on va à Dunkerque retrouver Thérèse. Thérèse, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue au téléphone sonne, nous vous écoutons.
Oui, je pensais à toutes ces personnes qui ne boivent jamais d'alcool et qui vont donc être plus ou moins pénalisées d'avoir ces appareils dans leur voiture. Voilà, c'est tout.
Alors, Pascal Pennec et Jean-Yves Salin.
Ouais, il faut quand même considérer qu'un véhicule, on peut le prêter. Donc, ça veut dire que peut-être que le conducteur ne boit jamais, mais la personne qui va emprunter la voiture sera bien contente de trouver cet éthylotest dans sa boîte à gants pour le jour où.
Jean-Yves Salin.
Vous savez, quelques années, on a imposé le gilet et certaines personnes disaient, mais moi, je vais pas forcément tomber en panne. Mmh. Et aujourd'hui, on constate l'intérêt du gilet à chaque fois qu'il y a une panne. Donc, l'éthylotest peut servir et c'est utile d'avoir ce véhicule.
Il faut rappeler que l'éthylotest peut être un appareil électronique qui, effectivement, coûte quelques dizaines, voire plus d'une centaine d'euros, mais que l'immense majorité des Français se doteront d'un éthylotest chimique qui vaut de 1 à 2 euros par rapport au prix d'une voiture.
Et qui va être distribué abondamment cet été sur les autoroutes. Et ça sera gratuit.
Ça va être le gadget publicitaire branché de
voilà,
l'été.
Peut-être que la caravane du Tour de France, à la limite, devrait distribuer
des
centaines,
des milliers vont être distribués. Donc, c'est quand même pas compliqué.
C'est pas un drame économique, faut dire honnêtement.
Allez, on va à Fontenay-sous-Bois retrouver Michel. Michel, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue au téléphone, ça, nous vous écoutons.
Je vous remercie de m'avoir appelé et je vous dis bravo pour vos émissions.
Merci.
Alors, d'une part, hier, j'ai entendu sur votre antenne un avocat spécialisé justement dans les promeneurs routiers qui rappelait que quelqu'un qui vient de boire après un bon repas, enfin pendant un bon repas, s'il se teste immédiatement, peut avoir un résultat négatif alors que son taux d'alcoolémie maximale n'apparaîtra qu'au bout d'une demi-heure ou voire une heure après. Ce qui veut dire que ce conducteur de bonne foi va se tester, va se croire autorisé à partir alors qu'en réalité il est contrevenant sans le savoir puisque ça va se déclarer ultérieurement. Donc pour moi, ça me fait penser quand même que cette histoire d'alcool-test c'est quand même assez inutile et que d'autre part, par exemple, un conducteur qui a l'habitude de boire sans se soucier ou non et de prendre le volant ne va pas pour autant changer ses habitudes parce qu'il a un éthylotest dans la boîte aux gants.
C'est pas la cible.
Alors ça, en fait, on va réagir, je vais vous demander de réagir à ça tout à l'heure, mais c'est vrai que ce qu'on a beaucoup vu cet après-midi sur les messages reçus sur le site franceinter.fr, c'est une question des auditeurs. Mais de toute façon, si on a fait un peu la fête, voire même un peu beaucoup, qu'on a bu, de toute façon, on se rend bien compte qu'on a largement dépassé les 0,5 g, donc on n'a pas besoin de souffler. Et puis, quelle sécurité aussi si on souffle et qu'on s'aperçoit que le éthylotest vire, est-ce que la voiture s'arrête toute seule? Par quel miracle? Ça ne sert pas à grand-chose, tout ça.
C'est la prévention, la sensibilisation. Oui. Quelqu'un qui boit, s'il boit 5 verres, il faut savoir qu'on élimine à peu près un verre par heure. Donc déjà, ça donne un ordre d'idée. Ensuite, il est primordial d'attendre au minimum une demi-heure, voire trois quarts d'heure avant de souffler, et après le dernier verre. Sinon, ça ne sert à rien. Et alors, ce que je ne comprends pas, c'est que sur les ballons, il est écrit, attendez 10 minutes avant de souffler après un dernier verre. Non, surtout pas 10 minutes. Non, c'est beaucoup, beaucoup plus.
Donc il faut attendre.
Voilà, il faut vraiment attendre. L'idéal, c'est trois quarts d'heure.
Je crois qu'il faut bien comprendre que la cible, c'est pas effectivement celui qui de toute façon est complètement bourré et qui d'ailleurs de toute façon prendra la route même s'il a fait un concours de ballon et qu'il a une couleur qui est inédite. En fait, ça sert, et c'est en cela que moi je suis totalement d'accord, ça sert à permettre à tous les gens responsables qui hésitent à prendre le volant parce qu'ils se disent 3 verres, 2 verres et demi, je peux pas, à éviter de commettre une infraction de toute bonne foi. Et c'est cette clientèle-là, à mon avis, qui est visée, plus quelque chose qui me semble très important à dire, c'est qu'il y a un rapport psychologique entre le conducteur et son passager.
Surtout.
Et la passagère, souvent.
La passagère
qui a beaucoup de mal à faire entendre raison à son homme, qui dit, mais je suis en parfaite santé, je suis parfaitement capable de conduire, je rentre. Si elle peut lui dire, écoute, Gilles, teste-toi, et si le test soufflé, vous saurez, il est négatif, je pense qu'elle aura un ascendant psychologique pour dire, tu vois, t'es en infraction, va pas risquer tes points, prends pas le volant. Et ça, je pense que ça va.
Ça, c'est un élément très important. Nous diffusons des éthylotests dans les discothèques, les soirées étudiantes depuis des années. Et ce qu'on voit, c'est que l'éthylotest est un moyen, finalement, pour engager la conversation. Lorsque vous avez quelqu'un qui a trop bu en face de vous, quand vous n'avez pas d'éthylothèse, vous lui dites « t'as trop bu », il vous répond « mais non, je peux conduire ». Là, vous aurez un outil à utiliser, et vous lui le ferez tester, et vous lui ferez vérifier qu'il a trop bu, et ensuite, vous pourrez éviter de lui faire reprendre, d'éviter qu'il reprenne le volant. Donc, c'est un moyen pour mettre le sujet sur la table, si je puis dire, hein, entre amis, en famille, et on pourra dire « tiens, tu pourras utiliser ton éthylotest, parce que manifestement, là, t'as un peu trop abusé sur l'alcool ».
Pascal Pennec.
Oui, le précédent délégué interministériel qui est à l'origine de cette mesure, hein, c'est lui qui a pris cette décision, il comptait en fait vraiment sur les femmes en disant ces personnes-là sont tellement plus responsables que les hommes. À partir du moment où elles vont monter dans la voiture, elles vont vraiment mettre la pression sur leur jules et ça peut marcher.
Bon, mais vous qui êtes spécialiste de l'automobile, Pascal, il y a une autre solution. Il y a ce système qui est ad vitam aeternam sur les voitures et qui permet de faire démarrer sa voiture. Oui, ça, c'est l'arme absolue.
C'est tellement cher. Attendez, on ne va pas imposer une option aussi coûteuse à quelqu'un qui
ça
voit coûte, quand même.
Ça peut coûter combien pour une voiture?
C'est minimum 1000 euros. Hein.
Alors, sur ce sujet, pour être clair sur l'éthylotest dans les véhicules, on est tous d'accord, je crois, pour dire que c'est pas la seule solution contre l'alcool au volant. On a dit à quoi ça pouvait servir. L'éthylotest anti-démarrage dont vous parlez, ce sera bientôt possible. À partir du mois de septembre, a priori, le juge pourra décider pour un conducteur avec grosse alcoolémie délictuelle, d'imposer pendant une durée maximum de 5 ans sur le véhicule un éthylotest. Et là, effectivement, on s'adresse à ceux qui ont énormément consommé, voire ont un problème
de récidive
et d'addiction à l'alcool. Donc ce sont bien deux publics différents auxquels on s'adresse. Et là, il y a une complémentarité dans les dispositifs à disposition.
Bon, alors sur ces éthylotests, je ne voudrais pas aussi gâcher l'ambiance, mais il y a quand même de grosses polémiques depuis une semaine. On nous dit que le principal fabricant, c'est lui qui est à l'origine de cette obligation de mettre des éthylotests. Alors est-ce qu'il y a conflit d'intérêts, Pascal Pennec? Est-ce que, clairement, comme le supposent beaucoup d'auditeurs sur le site franceinter.fr, est-ce qu'il y a eu magouille?
Il n'y a pas eu magouille, mais il y a clairement un conflit d'intérêts. C'est-à-dire que les fabricants d'éthylotests se sont réunis en juillet dernier, ont fondé une belle association qui s'appelle e-Test, et en disant on va ressortir une vieille mesure qui date de 40 ans. Alors le problème, c'est que cette mesure, elle est très intéressante en soi, et ce qui est dommage, c'est que ça soit eux, ce collectif de fabricants, qui l'ait ressorti du panier, parce que ça aurait été quelqu'un d'autre, on aurait trouvé ça, que c'était très très bien. Donc conflit d'intérêts, c'est dommage, parce que l'idée est bonne.
Parce que l'association a dans ses rangs des collaborateurs du principal fabricant, c'est ça?
C'est ça, de tous les fabricants. Tous les fabricants se sont réunis et participent. Alors évidemment, pour eux, c'est le jackpot. Bon, alors une fois qu'on s'est équipé d'un éthylo, est-ce qu'on va... Tout le monde ne boit pas énormément, hein, donc
ça
leur assure un bon lancement. Après, il faut voir comment ça va évoluer.
Et ça a une durée de vie limitée, de toute façon.
C'est 2 ans. Hein.
Oui, ça a une durée de vie limitée, donc tous les 2 ans, il faudra renouveler.
Et par exemple, si j'en ai un dans ma voiture cet été et que je reste le long d'une plage, ça l'abîme l'éthylotest ou pas? Alors, avec la chaleur que nous n'avons pas à Paris, malheureusement.
C'est une vraie question, dans la mesure où il est écrit sur les ballons, pareil, qu'il faut s'en servir entre 10 degrés et 40 degrés. Et qu'il faut les stocker à moins de 40 degrés sur une longue période. C'est-à-dire que ça peut résister pendant 3 semaines à plus de 40 degrés. Alors, sachant qu'une boîte à gants, évidemment, en pleine journée, sous le soleil, ça va monter à 60 ou peut-être même plus. Mais par contre, la nuit, ça redescend à peu près à 30 degrés ou même un peu moins. Et ça suffit à ce que ça ne détériore pas l'éthylo, à en croire les fabricants, bien sûr.
Sachant que le laboratoire d'essai nous dit que les tests ont lieu jusqu'à 60 degrés. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est ne pas mettre son éthylotest, évidemment, à proximité de la lumière et du soleil.
Toujours à l'abri de la lumière.
Toujours à l'abri de la lumière. Sous le siège, si on a un bac sous son siège, c'est l'idéal.
Alors, nous allons maintenant en Bretagne retrouver Pierre. Pierre, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue au téléphone sonne, nous vous écoutons.
Merci. Oui, donc je vais simplement faire un témoignage en tant que magistrat. J'ai eu à connaître de beaucoup d'affaires d'accidents graves de la circulation. Et ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a une sorte de fantasme sur la vitesse, parce que je n'ai jamais vu d'accident gravissime qui soit seulement lié à la vitesse. La vitesse est toujours associée à autre chose. La consommation d'alcool, la consommation de stupéfiants, d'autres infractions, non-respect de priorité, etc., etc. Voilà. C'est ce que je voulais dire, c'est que la vitesse qu'on met en avant, je ne l'ai jamais vue Voilà.
Alors, avant ça, il y avait des commissions qui s'appelaient les commissions Réagir, je crois, non? On étudiait, ça existe toujours, ça, on étudiait les accidents.
Il y a toujours une association de plusieurs facteurs, effectivement. C'est très, très rare qu'il y ait un seul facteur. Je vous jure que le fait que je sois auxiliaire de justice n'a rien à voir avec ce témoignage d'un magistrat. Je n'y suis absolument pour rien, mais j'aime à l'entendre dire parce que ça corrobore ma pratique personnelle depuis 30 ans. C'est vrai que la vitesse seule, sans aucun autre facteur extérieur, c'est effectivement rarissime que ça puisse être le seul facteur de l'accident, et les commissions Réagir le démontraient à l'évidence. Par contre, c'est vrai aussi que, et c'est facile à comprendre, si vous avez bu un coup de trop et que vous roulez très vite, déjà vous n'êtes pas capable de conduire, j'allais dire, à vitesse normale, alors à vitesse élevée, évidemment que vous devenez une bombe en puissance. Donc c'est vrai qu'il y a des mélange qu'il faut pas faire, non seulement entre l'alcool et la vitesse, mais par exemple l'alcool et les stupéfiants sont des choses terrifiantes.
Qui ne sont pas détectables. Alors là, ça par contre, les stupéfiants,
alors,
pour
si
le moment...
Alors si les stupéfiants, là il y a un vrai problème. On entendait parler ce matin d'ailleurs sur une radio de votre groupe de savoir s'il y allait avoir aussi des tests de dépistage des stupéfiants qui seraient mis en service ou pas. Bon, a priori il n'en est absolument pas question, donc pour l'instant dans la boîte à gants on n'aura que le test pour l'alcool. Mais là il y a un vrai gros problème que personnellement moi je trouve extrêmement choquant, c'est que il est aussi dangereux de conduire sous l'emprise de stupéfiants que sous l'emprise d'alcool. Personne ne le conteste, et surtout pas moi. Mais en matière d'alcoolémie, on vous verbalise lorsque vous avez dépassé un seuil. C'est même pas zéro. On pourrait imaginer que ça soit d'ailleurs à partir de 0,1 et que ça soit très très tôt. Mais en matière de stupéfiants, ce que nos députés ont pondu, c'est une loi qui vous permet de vous faire verbaliser si vous avez consommé des stupéfiants depuis, en l'occurrence, moins de 3 semaines, qui est le délai pour en retrouver dans le sang. Ça veut dire que, n'étant pas un habitué de la chose, je parle sous le contrôle des connaisseurs qui fument régulièrement des petits joints, mais que, à ma connaissance, si vous avez fumé un petit joint il y a 3 semaines, vous êtes plutôt bien 3 semaines après et vous sentez plus absolument rien. Moyennant quoi, si on trouve la trace dans vos urines, dans votre sang, enfin peu importe, du fait que vous avez utilisé des stupéfiants alors que vous êtes à l'évidence absolument pas sous l'emprise de stupéfiants, vous allez risquer les mêmes peines que pour une alcoolémie positive avec 2 grammes d'alcool dans le sang. Ça, je trouve ça totalement débile parce que ça va à l'encontre du but de la loi, qui est de faire prendre conscience aux gens qu'on ne conduit pas plus défoncé qu'on ne conduit bourré.
Pascal voilà. Pennec et Jean-Yves Salin.
Petite précision, c'est un délit et donc ça veut dire que la personne en plus qui commet un accident n'est pas remboursée de ses propres dommages.
Tout à fait, parce qu'elle a consommé des stupéfiants il y a 15 jours et qu'elle est absolument plus.
Et ça, les gens n'en ont pas conscience.
Jean-Yves Salin, de la
Prévention. Je reviens sur la remarque de votre auditeur sur la vitesse. Il y a des cas où la vitesse est à l'origine d'accidents, notamment les sorties de route. Il y a notamment aussi les distances d'arrêt qui varient fortement avec la vitesse. Donc la réaction du conducteur. Et puis, dans tous les cas, je crois que ça a été dit, c'est un facteur aggravant. C'est-à-dire que dans tous les cas, quand on a un accident, plus on va vite, plus les conséquences sont graves pour soi et pour les autres.
Égale 1,5 de MV2, ça s'appelle l'énergie cinétique et c'est absolument incontournable. Mais je suis heureux d'entendre ce que j'entends dans la bouche de M. Salin, c'est qu'effectivement, il ne faut pas confondre excès de vitesse, c'est-à-dire dépassement d'une vitesse limite fixée de façon uniforme, et vitesse excessive, qui est d'ailleurs prévue par la loi, et c'est un autre texte, enfin c'est également prévu par la loi, c'est-à-dire une vitesse inadaptée. Et ce que l'on voit par exemple dans les spots qui passent à l'heure actuelle à la télé pour les motards qui se lâchent quand ils sont sur une petite route de campagne, ou que l'on constate souvent, c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, quand on sort de la route par soi-même, bah c'est tout simplement parce qu'on était à une vitesse excessive, et ça effectivement c'est grave, de dépasser une vitesse arbitrairement fixée à 130 sur une autoroute déserte. Personnellement, je sais que ce n'est pas grave, et les Allemands nous le démontrent tous les jours. Donc, il faut replacer les choses dans leur contexte in concreto.
France Inter, Philippe Lefebvre, le téléphone sonne.
Allez, nous allons dans le Var retrouver Marc. Marc, bonsoir, bienvenue au téléphone sonne.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon témoignage. Écoutez, je suis technico-commercial, je réside dans le département du Var, vous l'avez dit, je sillonne le Var et les Alpes-Maritimes, qui sont des départements très touristiques. Mais moi, je suis le local de l'étape et je circule la quasi-totalité de mon temps pour mon travail. Je parcours 6000 km par mois et je suis régulièrement, ben moi je vais employer le mot de raquette, puisque je viens de faire mon budget sur les 8 derniers mois, les infractions à la vitesse, hein, puisque c'est principalement ce qui me questionne aujourd'hui, sont de 875 € sur les huit derniers mois. Dans ça, j'inclus une amende par mois à hauteur de 45 € pour des tout petits dépassements de vitesse, Donc j'insiste sur ce point, qui fort heureusement ne me coûte pas un point puisque je circule en véhicule de fonction et c'est ma société qui ne déclare pas l'identité du conducteur. Donc je le dis aussi, je viens de me payer un stage à 240 euros pour récupérer 4 points, parce que malgré ce, ben, de temps en temps, j'échappe aussi. Je peux vous affirmer, je viens de passer 2 jours, vendredi et samedi, en stage de récupération de points organisé par la prévention routière. Les 20 personnes autour de la table étaient, mais alors, ce stage-là sert à nous mettre, on va dire, de la pédagogie et on doit sortir de là avec d'autres raisonnements, et bien c'est tout le contraire qui se passe, c'est-à-dire que les 20 présents, stagiaires présents, étaient complètement remontés contre ce système. On a vraiment l'impression d'être attendu au bord des routes. Il y a une centaine d'années, c'était les brigands qui attendaient au bord des routes pour dévaliser les voyageurs. On a l'impression qu'aujourd'hui, ce sont les gendarmes qui se sont assignés ce rôle-là. Et c'est un peu compliqué à vivre. À 7h15 le matin, quand on va au boulot, se voir sanctionné, verbalisé à hauteur de 45 euros et un point parce qu'on était à 134 km/h retenu sur une portion de ligne droite sur autoroute, je suis désolé, mais je vois pas ce que vient de faire la notion de sécurité là-dedans.
Jean-Yves Salin de la prévention routière, justement, alors ces tests et ces stages pour récupérer des points, il a pas l'air d'y croire, Marc. Hein.
Alors déjà, en entendant votre auditeur, on a l'impression que ça concerne tous les conducteurs. Il faut savoir qu'il y a à peu près 200 000 personnes par an qui suivent ces stages. Donc ça représente, j'irais, un petit pourcent de l'ensemble des conducteurs chaque année. Donc tous les conducteurs n'ont pas à suivre des stages, tout simplement parce que le permis à points, logiquement, on peut commettre des erreurs. Si on n'en commet pas de nouvelles, au bout d'un moment, on récupère ses points et on n'a pas l'obligation forcément de suivre un stage. Alors ces stages sont faits justement pour réfléchir sur sa conduite. C'est vrai que ce que disait tout à l'heure Marc, c'est qu'ils étaient très remontés. Très souvent, ils sont très remontés en arrivant. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'en repartant, ils ont quand même appris des choses, malgré le fait qu'ils aient passé 2 jours, souvent pris sur leur temps de travail. Ils ont quand même appris des choses qu'ils n'avaient pas appris avant, quand ils ont passé leur permis, etc. Et globalement, en tout cas, c'est ce que nous voyons dans les études, les participants de ces stages sont plutôt satisfaits. Le problème, c'est ceux qui viennent 2, 3 fois, 4 fois, parce que là, on est vraiment dans le dur. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas, a priori, l'intention de changer leur comportement.
Pascal Pennec.
Oui, il y a juste une chose à propos de ces stages. Ce qui est dommage, c'est que bon, là, on est en pleine évolution. Il y a encore un arrêté qui est paru aujourd'hui, qui va un petit peu modifier le contenu de ces sessions. Mais ce qui est dommage, c'est que on met sur le même niveau et qu'on n'encourage pas plus les stages centaures, par exemple, qui, eux,
alors c'est quoi les stages centaures?
C'est la même chose que les autres, à cette différence près qu'il y a une prise en main du véhicule et on va vous éveiller sur ce que c'est, par exemple, qu'un freinage. On va vous vraiment, ce sont des tests pratiques qui vous démontrent que, ben, en fait, vous croyez bien conduire parce que ça fait 30 ans que vous êtes au volant et vous n'avez jamais eu d'accident. Et puis, ben, on vous montre que sous la pluie, ben, finalement, vous ne sauriez pas rattraper une voiture, etc. Donc, ça vous fait comprendre que, ben, vous êtes faillible, vous aussi, et je peux vous garantir que là, sur un stage classique, tout le monde repart en se disant, oui, bon, j'ai appris quelque chose, c'est vrai, mais là, tout le monde repart très convaincu.
Oui, si on se met en aquaplaning, il y a des voitures qui simulent un aquaplaning,
oui, par exemple, faire un freinage d'urgence, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'auto-école, mais je peux vous garantir qu'une fois qu'on l'a fait sur un circuit, eh ben, on sait le répéter machinalement après, et c'est un bienfait formidable.
Mais ce qui ressort aussi chez beaucoup d'auditeurs, c'est ce côté machine à cash, des radars, des contrôles. C'est un peu ce que dit Marc dans le Var.
C'est tout le problème, c'est qu'on nous a vendu le permis à points en 1989, c'est une loi de 89, on fête le 20e anniversaire, c'était hier, hein, puisque ça a été mis en vigueur au bout de 3 ans, il fallait informatiser 30 ou 40 millions de permis en 92. Bon, et on nous l'a vendu, parce que c'est quand même une troisième peine, c'est en plus de la suspension de permis, en plus de l'amende, et avec le risque à l'arrivée, donc une annulation de permis. On nous l'a vendu en nous disant, attention, je me rappelle très bien de messieurs Sarr et Delbar, qui étaient les pères de ce bébé-là, et qui avaient dit, ça va être une arme anti-chauffard pour éradiquer ceux qui font n'importe quoi, qui violent copieusement la loi et qui n'ont pas l'intention de changer d'attitude. Bon. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Eh bien, que malheureusement, ce n'est absolument pas là la cible qui a été finalement obtenue, c'est une immense majorité de personnes qui commettent un certain nombre de petites infractions, de très légers dépassements de vitesse, de ceinture, de téléphone, des choses comme ça, beaucoup plus que des alcoolistes récidivistes, des gens qui tuent des conducteurs, des gens qui commettent les grands excès de vitesse, je ne veux pas dire de bêtises, les plus de 50, je crois que c'est 0,5%. Enfin, c'est totalement dérisoire. Et on s'est trompé de cible, et en se trompant de cible, on a généré ce que vous entendez, à savoir l'absence, je dirais la désadhésion du public. Il y a eu une excellente enquête il y a un an et demi dans Auto Plus, ou deux ans, qui pour la première fois arrivait à la conclusion qu'une majorité de Français ne soutenait plus la politique gouvernementale.
Il y a un ras-le-bol.
Les gens se rendent compte que, en fait, c'est pas les chauffards que ça vise. C'est eux et leurs voisins, des gens qui, jusqu'à présent, n'avaient jamais eu affaire à la justice, notamment parce qu'on a supprimé ce que les gendarmes appliquaient d'eux-mêmes, à savoir qu'ils disaient, parce que c'était des gens intelligents, c'est toujours des gens intelligents à la différence d'une machine idiote, ils disaient à cet endroit-là, dépasser de 10 km/h, c'est pas un crime, je règle mon radar à 100 au lieu de 90. Et donc, 80% des gens n'étaient pas pris, et ils n'avaient pas peur du gendarme, et ils ne voyaient pas en quoi, effectivement, il y avait une machine à cash. Maintenant, j'ai des gens, moi, qui suis l'avocat qui défend les automobilistes, qui m'agressent au téléphone en me disant « Je suis verbalisé pour 1 km/h de différence, vous vous foutez de moi !» Je dis « Attendez, moi, j'y suis absolument pour rien !» Mais c'est le système tel qu'il a été voulu depuis 2003 par les tenants de la politique de répression routière. Et effectivement, on prend dans les mailles du filet des millions de points à des millions de petits poissons. Et je peux vous dire que les gros poissons, et ça nous ramène à ce que disait cet auditeur au début qui implicitement mettait en cause les avocats spécialisés, les gros poissons, ils sont organisés depuis très longtemps pour être à l'abri effectivement du maximum d'infractions et de verbalisations. Je peux vous dire que quelqu'un qui a l'intention d'échapper à la majorité des contrôles automatisés, c'est-à-dire 80 ou 90% des contrôles aujourd'hui en France, ça fait déjà très longtemps qu'il a mis la voiture au nom de quelqu'un d'autre et qu'il n'a plus aucun problème. Alors que l'immense majorité des bataillons des gens qui se font retirer un point par-ci, par-là, ce sont des gens comme vous et moi, des gens qui n'ont absolument aucun problème avec la loi, mais qui effectivement se font prendre sur un moment d'inattention ou pire, sur un radar qui est mal réglé.
Alors, Pascal Pennec, tout d'abord d'AutoPlus et ensuite Jean-Yves Salin de la prévention routière.
On sent qu'il y a eu vraiment un ras-le-bol et malheureusement il s'est traduit dans les chiffres, c'est-à-dire que l'effet radar, si vraiment il a existé, il a été très sensible pendant les 5 premières années et puis après, là ça fait 4-5 ans qu'on a une stagnation dans la courbe du nombre de morts sur les routes. C'est pour ça qu'il y a eu cette surenchère et qu'aujourd'hui on va se retrouver là en 2012 avec 6 nouvelles générations de super radars encore plus performants les uns que les autres, les tronçons, les mobiles, les passages à niveau, les chantiers, etc., etc. Certains justifiés, d'autres moins, mais qu'il faut essayer de remettre, enfin ils veulent, c'est l'action qui a été décidée à l'époque d'Hortefeux maintenant, de remettre une couche de radar encore plus méchante parce que la précédente ne suffisait plus.
Jean-Yves Salin.
Non, sur le permis à points, c'est vrai que le système a changé considérablement quand sont apparus les radars, puisqu'avant il y avait très peu de contrôles et il y avait beaucoup de contrôles qui n'allaient pas à terme. Donc tout d'un coup, avec les radars, il y a eu énormément de contrôles. Mais sur le permis à points, je voudrais quand même dire qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent des stages de récupération de points qui ont été verbalisées pour l'alcool au volant, hein, de grosses alcoolémies, ça fait perdre tout de suite 6 points, quel que soit des 0,5 grammes par litre dans le sang. Donc on a énormément aussi de participants à des stages qui viennent pour une verbalisation sur l'alcool.
Allez, on va dans le Tarn.
Je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais justement, on les retrouve plus au moment de l'annulation du permis de conduire, parce qu'ils se sont organisés, ils bénéficient de l'indulgence à 4 points égale 250 €, et que ceux qui se font enlever petit à petit le permis à points, parfois même sans s'en rendre compte parce qu'on n'est pas suffisamment avisé, on ne reçoit pas de lettre recommandée, ce sont effectivement les tout petits contrevenants, et qui en général se retrouvent un matin en disant « j'ai plus de points sur mon permis, mais comment ça a pu arriver ?» Ils n'ont pas commis d'alcoolémie à 6 points ceux-là.
Allez, on va dans le Tarn-et-Garonne retrouver Marc. Marc, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue au téléphone sonne, nous vous écoutons.
Merci, bonsoir et félicitations pour vos émissions. Voilà, je voulais rebondir exactement sur ce qu'avaient dit les précédents auditeurs et je suis tout à fait d'accord avec eux. Je pense qu'on nous prend un peu pour des poires. Alors, je pense que plutôt que de dépenser dans des radars, je pense qu'il serait plus efficace de revoir notre réseau de très mauvaise qualité. Nous avons peut-être des autoroutes. Moi, je n'en ai pas autour de moi. C'est pas difficile. En revanche, je suis médecin et quand on m'appelle d'un point à un autre, eh bien, on me donne toujours des...
Alors Marc, on a un petit problème de liaison. Et parfois le téléphone portable, ça fonctionne pas forcément très bien. La question de Marc, c'est voilà, on dépense beaucoup d'argent, on investit beaucoup pour installer des radars toujours plus performants, donc on peut le supposer aussi toujours plus cher. Mmh. Et pendant ce temps-là, cet argent, on l'utilise pas pour mettre les routes à niveau.
Et je sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire qui a eu lieu, je crois, dans le Tarn ou quelque chose comme ça, à une époque, puisque vous savez que l'État s'occupait de l'entretien des routes nationales. Et il l'a lâché l'entretien des routes nationales. Il l'a délégué
la moitié,
pour partie au Conseil général, si mes souvenirs sont bons, en leur disant « débrouillez-vous, entretenez les routes nationales », avec un budget qu'ils n'ont pas transmis par contre. Donc évidemment, on va vers une déliquescence des routes nationales. Et justement, je ne sais plus quel Conseil général avait décidé qu'il allait en quelque sorte nationaliser les radars qui étaient sur son territoire et demander que les sous que ça rapportait servent à entretenir les routes sur lesquelles ils étaient postés. Ce qui paraissait plein de bon sens. Je vous dis tout de suite, ça n'a pas été accepté. Bien entendu, l'argent reste à l'État. L'entretien des routes, y compris celles qu'utilise notre ami Kiné pour aller faire ses visites, reste aux conseils généraux qui n'ont pas les moyens de les entretenir. Et ça, c'est un vrai problème. Oui.
Pascal Pennec, on a une idée de ce que peut rapporter à l'année un radar ?
Oh oui, ça on le sait.
Vous avez une minute pour plancher.
La globalité, c'est pratiquement 500 millions, 470 l'année dernière, parce que ça baisse. C'est pour ça qu'il y en a des beaucoup plus performants qui vont arriver. Mmh. Et puis si on ajoute les amendes majorées, c'est 100 millions de plus.
Bon, alors j'ai
donc
une question.
Donc on divise par les 2000 cabines, 933 mobiles.
Hein. Voilà. Il y en a un qui a flashé une fois, je crois, l'année dernière.
Voilà.
Et il y en a un qui est le Stakhanovich qui doit...
Qui est à plus de 400.
Voilà. Mmh. Dans le sud de la France.
Non,
dans
le sud de la France, il est à la frontière. Exactement. Non, il est à la frontière suisse. Ah, c'est tous les gens qui sont pressés d'aller planquer leur fric.
Alors je vais juste vous demander une réponse par oui, par non. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui on en fait trop au nom de la sécurité routière, Eric de Comment?
Trop de répression, pas assez de pédagogie et de prévention.
Pascal Pennec d'AutoPlus.
Même discours.
Jean-Yves Salin, la prévention routière.
On n'en fait pas assez, il faut passer à une nouvelle étape avec de la prévention, effectivement, sur la fatigue, l'alcool, le téléphone. Il n'y aura pas de système automatique, donc il faudra bien convaincre les auditeurs de changer de comportement, les auditeurs et les conducteurs, bien sûr.
Ce sera le mot de la fin, messieurs. Merci et à demain. Au revoir.